l'Express du Grand Paris. Pour aller plus vite, pour aller plus loin.
Bienvenue dans l'émission Le Grand Paris Express, et oui, l'envergure du futur réseau, 200 km de métro, innovation sur 68 gares, impact urbain. Le Grand Paris Express constitue le plus grand projet d'aménagement urbain en Europe. On en parle, et pas seulement de sujets, parce qu'il y a beaucoup d'actualités politiques en ce moment, avec Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, conseiller régional d'Île-de-France, délégué spécial en charge de la rénovation urbaine. Laurent Jeanne, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Alors, c'est vrai que Champigny-sur-Marne fait partie du réseau Grand Paris Express. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors, Champigny-sur-Marne fait plus que partie du réseau, puisque Champigny-sur-Marne est au cœur du réseau. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, Champigny est la ville la plus impactée par les travaux du Grand Paris. Aujourd'hui, nous avons 9 chantiers qui sont en cours dans le cadre de la ligne 15 Sud, et nous allons en avoir bientôt 4 nouveaux. Au total, ce sera 13 chantiers, donc la ville est en pleine mutation, au fond, à la suite des travaux du Grand Paris Express. Et pourquoi je dis aussi au cœur du réseau ? Puisque tout simplement, on va avoir le poste de commandement de la 15 Sud et de la 15 Est qui vont être basé sur Champigny, et donc aussi le centre de remisage et de maintenance des trains. Donc Champigny sera vraiment au cœur du Grand Paris Express.
On va en parler effectivement de ces modalités et de l'avancée de ce chantier extraordinaire. Le Grand Paris Express, en tant que schéma de rénovation urbaine, vous êtes en charge de ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a eu, il y a des années, le baron haussmannien. Il y a eu la création du métro. C'est assez rare, finalement, le lancement de dynamique comme ça, urbaine. Donc, c'est un projet de cette envergure. Fallait redonner une dynamique à l'Île-de-France ?
Alors, il fallait redonner une dynamique à l'ensemble de la région pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on avait une thrombose extraordinaire au niveau des transports en commun. Vous avez rappelé les étapes avec le métro, mais il y a eu aussi les RER. Et en fait, les RER faisaient, au fond, que du mouvement de balancier entre la banlieue et le cœur de Paris. Et la difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui, au fil des années, au fil des décennies, de plus en plus de pôles qui ont émergé autour de l'Île-de-France, et nous n'avions pas de transport pour aller d'un point à un autre de la banlieue. Et au fond, ce grand métro, ce grand Paris Express, c'est vraiment le métro de la banlieue. C'est pas celui de Paris. Il vient en complément de l'offre parisienne, bien évidemment, mais ça va nous permettre d'aller, par exemple, quand on est à Champigny, ce sera moins de 25 minutes pour aller à Roissy, moins de 25 minutes pour aller à Orly, alors qu'aujourd'hui, avec les transports en commun ou la voiture, vous mettez entre 1h15 et 1h30, avec une incertitude assez forte pour arriver à l'heure pour prendre votre avion. Là, demain, on aura vraiment une qualité de ce point de vue-là, qui faisait véritablement défaut à l'Île-de-France. Au fond, on répare ce qui n'avait pas été conçu dans le temps, et on accompagne un développement qui est celui de l'urbanisme de l'Île-de-France, et en particulier de la petite couronne depuis plusieurs décennies. C'est une chance extraordinaire pour nous, pour faire muter les villes qui vont être impactées par les travaux du Grand Paris, pour les faire rentrer au fond dans ce 21e siècle avec un peu de mal, puisque ça fait quand même, 20 ans que nous y sommes, mais en réalité nous n'avions pas passé ce cap-là. Donc c'est une chance et un levier formidable pour développer, rénover, retravailler nos villes, réécrire au fond nos villes, tout en gardant bien évidemment leur identité, mais c'est un accélérateur comme on n'en a jamais eu depuis une quarantaine d'années.
Il m'a semblé que parallèlement, on est à la fin des travaux sur la passerelle du pont de Nogent-sur-Marne, qui va ouvrir cet été, je crois, 120 tonnes de charpente métallique transportée sur une barge avant de s'accoler devant le pont de Nogent-sur-Marne. Vous êtes un véritable chantre des infrastructures. Pour vous, c'est créateur d'emplois et d'autres choses, peut-être ?
Alors, c'est 120 tonnes pour la première partie que nous avons posée la semaine dernière, mais c'est à nouveau 120 tonnes cette semaine. Donc, au total, c'est 240 tonnes aussi pour cette passerelle, effectivement, qui a été financée dans le cadre du contrat de plan État-Région, avec le financement du département. Et l'objectif, c'est véritablement de refaire du lien, refaire des ponts, à l'heure où on connaît en ce moment une guerre où on détruit les ponts, de refaire du lien entre les hommes, c'est vraiment essentiel, entre les deux parties d'un territoire, donc en l'occurrence Nogent-le-Perreux d'un côté et Champigny de l'autre côté, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent circuler plus aisément. C'est l'enjeu du Grand Paris, mais c'est aussi un enjeu qui doit s'accompagner dans les villes, comme cette passerelle. Cette passerelle, elle vient en complément de la refonte du pont de Nogent, qui était le plus gros bouchon d'Europe. Le plus gros bouchon d'Europe était ici. On avait systématiquement entre 45 minutes. On a fait sauter le bouchon.
Bientôt le champagne.
Le champagne pour l'inauguration. Et donc, on est très heureux d'avoir passé cette étape parce que derrière, c'est tout un réseau de pistes cyclables qu'on souhaite traiter. Si demain, on ne veut pas être dépendant de la voiture, si on veut effectivement avancer d'une façon différente dans nos mobilités en Île-de-France, et par exemple, le vélo électrique aujourd'hui est un vecteur extraordinaire, eh bien, il faut l'accompagner avec des infrastructures tout à fait à même de pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens et répondre à ces enjeux climatiques qui sont aujourd'hui ô combien essentiels.
Donc ces thèmes de mobilité douce, vélo, vous dites, c'est pas l'apanage des mouvements écologistes, du PS, pour ce qu'il en reste ?
Écoutez, l'écologie punitive, ça n'a jamais été une bonne chose. Moi, je suis pour l'écologie d'action. Ici, on a mis en place tout un tas de nouveaux dispositifs. Dans ma commune, on refait des rues particulières avec des végétalisations, on intègre des noues paysagères pour récupérer l'eau, pour faire en sorte qu'on arrive à mieux gérer ces espaces-là. On remet en perspective les bords de Marne d'une façon qui n'aura été jamais faite jusqu'à présent. Donc l'écologie des résultats, c'est ça qui nous intéresse, c'est véritablement avoir des actions de fond. Les grands discours sur l'écologie, c'est une bonne chose. Moi, je suis pour l'action dans les territoires et avec une véritable volonté d'avancer sur ces questions à la fois de renaturation. On a des problèmes, on vient d'évoquer la question du développement urbain lié au Grand Paris, mais comment on va le gérer, ce développement urbain ? C'est pas un développement urbain à tout craint. On a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui fait que on doit se poser les questions de qu'est-ce qu'on intègre en termes de pleine terre, comment on va pouvoir jouer sur les hauteurs en termes de constructibilité. C'est des vrais sujets d'aménagement. Et tout ça, c'est une réflexion aussi par rapport à l'environnement qu'on l'on veut. Est-ce que l'on veut continuer à refaire des tours comme dans les années 70, ou est-ce qu'on veut faire un étalement urbain ? Comment on peut recomposer la ville sur la ville ? Comment on peut travailler de façon intelligente pour récupérer de l'eau, pour utiliser les énergies solaires, pour faire en sorte que le cycle soit un vecteur complet dans les schémas d'aménagement. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de projets et au fond qui doit garder une cohérence sur les questions environnementales.
Vous avez des modèles ? On recevait l'autre jour Jean-François Copé, maire de Meaux, qui a permis à sa ville de changer de visage. Ça vous inspire ?
Oui, bah Jean-François Copé a fait un travail extraordinaire sur la Pierre Collinet et à Beauval, avant même la création de l'ANRU. Donc pour moi qui suis en charge de ces questions de rénovation urbaine à la région, bah, c'est forcément un modèle inspirant. Il y a eu des très belles transformations urbaines, que ce soit à Deuil-la-Barre, que ce soit à Meaux, que ce soit dans d'autres communes de taille plus modeste. Véritablement, quand on met le paquet en termes de transformation urbaine, on arrive à changer véritablement le visage de la ville et de ces quartiers-là, mais il faut avoir une approche globale et il faut mettre le paquet. Il n'y a pas d'autre façon de faire.
C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire mettre le paquet ? On a souvent tendance à dire ah, faut l'argent, des budgets, et on parle effectivement de milliards. Mais est-ce que c'est ça ? Parce que parfois, c'est juste de la volonté politique, ça n'a pas vraiment de prix, mais c'est un exercice délicat.
Alors c'est les deux. C'est à la fois une volonté politique forte, parce que si on n'a pas une volonté pour remettre en cause des schémas qui étaient un peu préétablis, bah, c'est compliqué, d'une part. D'autre part, c'est aussi une volonté pour pouvoir transformer la ville et que les acteurs de la ville s'approprient cette transformation, parce qu'on ne peut pas faire une transformation de l'environnement des gens sans leur approbation. Donc c'est aussi comment on organise une consultation, comment on a été dans une situation à Champigny particulière. On avait le Covid et en même temps, il fallait qu'on gère de la démocratie participative pour faire en sorte que ce projet avance. Donc, avec des questionnaires, avec des formes nouvelles de communication, comment on fait en sorte que les habitants s'approprient ces sujets, ça me semble être un élément extrêmement important. Et puis au bout, il faut quand même de l'argent, parce que les transformations de rénovation urbaine, quand vous démolissez du logement pour en reconstruire, mais de façon plus qualitative et pérenne, bah, c'est des opérations opération qui coûte. Quand vous recréez de la valeur économique dans des quartiers comme cela, avec de la santé, avec du commerce, avec des écoles, des équipements publics, pour prendre l'exemple du Bois-l'Abbé à Champigny, vous avez une école qui est un vieil Algeco qui a été fait il y a 50 ans en se disant bah, ça durera 10 ans, il a 50 ans, ça tombe en ruine, il faut bien refaire un équipement. Une école, c'est 20-25 millions d'euros. Donc il y a un moment, il faut quand même de l'argent. La volonté politique, c'est essentiel, et il y en a, mais il faut aussi que les moyens financiers suivent du côté de l'État et du côté de l'ensemble des collectivités territoriales.
Vous parlez de volonté politique, apparemment il a fallu batailler déjà pour obtenir que Champigny-sur-Marne soit élu dans ce réseau qui va changer la structure des dessertes vers l'Île-de-France. Comment avez-vous fait? Et puis, bataille également sur l'interconnexion, sans souvenir que pour l'interconnexion entre la 15 Sud et le RER E, vous avez dû batailler, vous avez lancé une campagne de pétition, parce que c'est bien beau d'avoir une gare, mais si c'est pas relié au bon endroit, on perd beaucoup d'intérêt. Vous nous racontez ces batailles?
Alors,
est-ce qu'il y en a d'autres là en ce moment?
Alors il y en a d'autres en fait. Il y a une petite précision à apporter. Tout d'abord, effectivement, bon, Champigny était éligible parce que c'était dans un tracé et que Champigny avait été particulièrement mal desservi lors de la mise en place des RER. Pour voyez, quand on prend le cas de la ville de Saint-Maur qui est juste à côté, 4 stations RER pour Champigny, 0 à l'époque. Donc, alors que nous avons le même nombre d'habitants, donc il y avait
un maire influent à l'époque qui a obtenu autant.
Certainement, mais c'est surtout en tout cas 70 000 à l'époque, 70 à 75 000 habitants qui ont été délaissés totalement, et donc avec des véritables problématiques d'accès, en particulier pour les quartiers les plus excentrés de la commune. Ensuite, donc à partir du moment où on était sur le tracé, tout ça était bien, mais il y avait un problème qui n'était pas l'interconnexion, que nous avons toujours comme problème, mais l'interopérabilité, c'est-à-dire la jonction en termes de portage de lignes entre la 15 Sud et la 15 Est. Ça, c'était un enjeu extrêmement important, puisque au regard des investissements qui étaient envisagés sur la 15 Est, il y avait une volonté de faire des économies et donc de supprimer cette interopérabilité. Et là, effectivement, toutes les sensibilités politiques se sont mobilisées à l'époque. Moi, je n'étais pas maire, j'étais élu d'opposition, mais conseiller régional, et je portais cette parole auprès de la présidente de la région pour obtenir cette interopérabilité, ce que nous avons obtenu, toutes sensibilités confondues, de telle manière à ce que ce projet, qui est quand même un projet pharaonique, mais un projet qui est un projet d'avenir pour les transports en commun, puisse voir le jour. Pour autant, toutes les batailles ne sont pas terminées, puisque l'interconnexion, elle, entre le RER E et le Grand Paris Express que vous évoquez, eh bien, le financement n'est pas garanti aujourd'hui. C'est un projet à 360 millions. Nous avons obtenu que 30 millions pour toutes les études, pour monter le projet.
Quelles sont les prochaines étapes?
Ouais. Il nous manque encore 330 millions. Et donc, il y a des discussions actuellement qui ont cours entre l'État et la région pour le financement de ce projet, avec une volonté de la part, en tout cas, de tous les acteurs publics, et en particulier les maires qui sont directement impactés, de faire en sorte que ce projet aboutisse, parce qu'il en va de l'avenir de ces secteurs. L'Est parisien a quand même beaucoup souffert en termes d'emploi. L'emploi est surtout à l'Ouest et les logements sont à l'Est. Si on veut éviter ce mouvement pendulaire quotidien de nos habitants, il faut qu'on développe de l'emploi. Pour pouvoir développer de l'emploi, bah, il faut aussi une bonne infrastructure de transport. On le voit à l'Est, Fontenay-sous-Bois s'est particulièrement bien développé à la jonction du RER A et du RER E. Si on a demain sur le secteur de Champigny, Villiers, avec les projets que nous portons entre les deux maires, une volonté forte d'intervenir sur le champ économique, c'est aussi parce qu'on a l'espoir que ce projet aboutisse d'interconnexion, faire en sorte qu'on arrive à créer de la richesse et de l'emploi à l'Est, ce qui sera quand même un gain pour les habitants que nous avons, d'éviter de perdre 3 heures dans les transports tous les jours, ce qui est quand même du temps en moins aussi pour la vie personnelle.
Alors on parle de gains, mais parlons des inconvénients, on ne va pas se cacher. Quand il y a un projet d'une telle ampleur, il y a des désagréments, des nuisances sonores, du bruit peut-être en termes de propreté. Quand je regarde l'opération extraordinaire, le ripage, là en janvier, les ouvriers avaient extrait 6 000 mètres cubes de terre. Tout ça, on voit du béton passer, il se passe énormément de choses à Champigny-sur-Marne. Les riverains, ils le comprennent bien. Comment ça se passe ?
Écoutez, je pense que les riverains font preuve d'une abnégation extraordinaire parce qu'il ne faut, il faut quand même pas se voiler la face. C'est difficile. C'est difficile. On a certains chantiers où ça se passe sans difficulté parce qu'on n'est pas dans des milieux très urbanisés. Je pense au secteur du plateau où on va voir le centre de remisage des trains et le poste de commandement. En revanche, quand on est sur des secteurs plus dans la partie du centre-ville, là c'est dur. C'est dur parce qu'on a eu des étapes, on a passé le plus difficile hein, aujourd'hui sur la création des parois moulées, les fameuses parois moulées pour faire passer les tunneliers, a été particulièrement des moments difficiles pour l'ensemble de nos habitants avec des contraintes horaires parfois tardives, des opérations qui pouvaient se faire qu'en nuit. Donc ça a été difficile. Ils l'acceptent parce que ils savent que dès demain nous aurons des jours meilleurs, que ce projet va voir le jour et que ce sera une véritable plus-value aussi pour leur cadre de vie. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert. Il y aura encore des moments difficiles avec la 15 Est parce qu'on termine la 15 Sud. Dans 3 ans, elle sera opérationnelle et on commence à voir entre guillemets le bout du tunnel. En revanche, sur la 15 Est, bah là, on a 7 à 8 ans de travaux qui s'annoncent avec des moments qui seront aussi difficiles pour les habitants. Mais il y a une telle volonté de voir enfin ce programme émerger, ce projet dont on parle depuis maintenant plus de 10 ans, que les habitants acceptent, bon an, mal an, mais avec un espoir très fort de voir cette mise en service, en tout cas pour la 15 Sud, rapidement maintenant.
Vous qui aviez ravi cette mairie en 2020 en arrivant en tête, alors que ce sont les communistes qui dirigeaient cette ville depuis 70 ans, hein, la ville historique de Georges Marchais. Aujourd'hui, les différentes formations soutiennent le projet.
Sur cette question du Grand Paris, en fait, il n'y a jamais eu de divergence. On a toujours été en phase, puisque on a eu des étapes. Hein. Vous savez qu'il y avait à l'époque deux projets, un qui était porté par la région avec Jean-Paul Huchon, un qui était porté par l'État du temps du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et au fond, les deux visions se sont rapprochées pour construire un seul et même projet. Au fond, la gauche et la droite se sont rassemblées dans le cadre de l'intérêt général. Le en même temps que certains pros n'existaient depuis bien longtemps, au fond. Rien n'a été inventé ces dernières années. Mais quand il y a de l'intérêt général, il peut y avoir de l'intelligence, et le projet du Grand Paris Express l'a démontré. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté particulière, il y a surtout au fond un peu d'impatience, de l'attente, avec le souhait de pouvoir enfin monter dans ce métro et se déplacer d'une façon qualitative.
Vous avez fait allusion au PCC, le poste de commandement centralisé. Toutes les informations relatives à l'exploitation des lignes, notamment sur la ligne 15, vont passer par Champigny-sur-Marne, hein, un site actif 24 heures sur 24, le cerveau de la ligne en quelque sorte. Et on nous dit, là-bas, la nature va transformer la ville. On nous dit que le centre s'intègre comme le chaînon manquant des paysages de la ville, parce que ça va relier le plateau de Brie au bassin versant du rue de la Lande. Ça vous tenait à cœur que, bon d'accord, c'est de la technique, c'est de la technologie à Champigny-sur-Marne, mais la nature n'est pas oubliée.
Alors, c'est déjà une grande satisfaction parce que je vous ai parlé d'emploi sur ce secteur autour des gares. Et donc là, on va être juste à côté de la gare dite pour l'instant de Brivilliers-Champigny. Et donc, c'est 500 emplois qui arrivent quand même sur la commune, emplois directs. Et puis, on va avoir des emplois induits. Là, je suis en train de finaliser l'arrivée d'une entreprise avec une centaine d'emplois en plus.
Donc, quel type d'activité
En lien d'ailleurs avec les activités ferroviaires et toutes les activités d'électronique embarquées. Et donc, on voit que, au fond, ce projet, au-delà des emplois directs, peut enclencher une véritable dynamique pour nos territoires. Alors après, reste le sujet de l'aménagement et de l'urbanisation. C'est vrai, comme je l'expliquais pour la création de logements, on s'interroge sur les hauteurs, sur la pleine terre, comment on arrive à intégrer de la construction de façon harmonieuse, au fond, dans nos territoires. Et ce secteur où va s'implanter ce poste de commandement, c'est un secteur où il y avait des vergers. Il y a encore une impasse à côté qui s'appelle l'impasse des vergers. Et donc l'idée qui a été menée avec dans les discussions avec le Grand Paris, c'était de se dire, bah, est-ce qu'on peut pas refaire des vergers sur ce secteur ? Et donc on va avoir une ferme sur le toit de ce centre de remisage. C'est 7000 mètres carrés de production maraîchère qui seront réalisés, donc des nouveaux espaces végétalisés, puisque le site, en fait, s'enfonce dans une colline, et au-dessus de cette colline, on fera émerger ces espaces de production maraîchère, avec des espaces végétalisés, des espaces de convivialité. Donc c'est aussi un beau projet sur le plan environnemental, pour pouvoir récupérer l'eau, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait de la production locale.
Là, j'ai vu que la gestion de l'eau du bâtiment, le système de nappe phréatique artificielle, va en faire un outil de, même scientifique pour l'intégration de la nature dans la ville. Ça fait partie des dimensions qui sont attendues par les citoyens, les riverains. De quoi ils vous en parlent ? Ils vous parlent juste du temps de trajet ?
Alors, en fait, ce site, on nous parle bien évidemment des questions du temps de trajet et puis de tout un tas de sujets aussi, de comment on va accéder à la gare, quels seront les aménagements autour de la gare. Ça, c'est des sujets qui sont assez récurrents. Mais c'est aussi un site qui, en fait, s'intègre dans un espace qui était un espace naturel, qui était en fait une ancienne friche. C'était la fameuse autoroute A87. On connaît tous la 86. La 87, personne n'en a entendu parler, puisqu'elle n'était qu'un projet dans des placards et qui n'a jamais vu le jour. Mais qui nous libère aujourd'hui de nombreux hectares. Hein, pour Champigny, c'est 25 hectares qui sont libérés, dont cet espace qui est occupé par le centre de remisage et le poste de commandement. Eh bien, tout cet espace... L'enjeu pour nous, c'est de savoir comment on va l'aménager de façon harmonieuse. Et là, il y a une véritable attente de la part de nos concitoyens pour se dire, ben, on pourrait peut-être avoir des espaces qui nous facilitent le transport pour arriver à la gare, mais aussi sur le chemin, bah, on pourrait y avoir notre emploi, on pourrait y aussi avoir des lieux de convivialité, des espaces de vie au fond. Et c'est comment on recrée de la vie dans nos villes. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important de demain et d'aujourd'hui, puisque l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que on puisse, dans un même secteur, ne pas avoir à se déplacer. Il y a des moments où on a besoin de se déplacer pour aller sur des pôles importants, mais il y a aussi des moments où on a besoin, à proximité de chez soi, de retrouver au fond un espace qui nous permette d'avoir de nombreuses activités. Donc c'est tout l'enjeu des aménagements que nous avons apportés dans nos villes. Et le Covid a beaucoup renforcé cela, parce qu'on a vu quand même beaucoup de Parisiens, plus de 6500 familles qui ont quitté Paris pour aller à la fois en petite banlieue ou en province, mais avec une attractivité nouvelle de nos communes, en petite couronne ou en grande couronne, qui véritablement ne se dément pas. Et les projets immobiliers qui ont émergé ces derniers mois rencontrent un vif succès, parce que on voit bien que on arrive à avoir à la fois tous les avantages de la proximité de Paris, mais en même temps avoir un espace encore naturel, avec un cadre préservé qu'on souhaite vraiment consolider.
Voilà, deux gares prévues à Champigny, la gare Champigny-Centre, la gare Brie-Villiers-Champigny. On élargit notre discussion à ce contexte politique assez particulier. On a les législatives devant nous. Quel regard portez-vous sur la présidentielle ? Je vous rappelle que vous êtes du mouvement Libre, soutien de Valérie Pécresse. Bon, alors, elle n'est pas arrivée à la gare finale. Quelle est votre analyse ?
Écoutez, pour reprendre la métaphore du Grand Paris Express, le tunnel était étroit. Trouver un espace politique entre Emmanuel Macron et puis les extrêmes n'était pas chose facile. On a bien vu que le vote utile a joué à plein, à gauche, avec véritablement une grande partie de la gauche qui s'est reportée sur Jean-Luc Mélenchon, sans trop se poser de questions d'ailleurs sur les enjeux, sur l'Europe, sur la vision de l'économie. Je pense pas que la gauche soit devenue unique lors de cette élection, mais en tout cas le phénomène du vote utile a joué à plein. Et puis à droite, c'est la même chose. Quand on ne voulait pas avoir Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon, au fond, ce qui apparaissait le plus possible, c'était de réélire Emmanuel Macron. Ça a joué à plein. Je le regrette à titre personnel, parce que je pense que Valérie Pécresse a fait une campagne courageuse sur le fond, mais elle n'est pas parvenue à convaincre l'ensemble des électeurs.
C'est pas tout à fait la Valérie Pécresse que vous connaissez, que vous avez vu, c'est intéressant.
Je pense que c'était une première campagne et qu'au fond, lors d'une première campagne, on peut commettre parfois quelques petits travers, ça peut arriver. Donc il y a eu peut-être certaines choses qui doivent être repensées, améliorées et qui ne lui ressemblaient pas. Moi, je connais Valérie Pécresse qui a perdu en 2010 et qui s'est posé les bonnes questions et qui l'a emporté sans difficulté en 2015 dans une triangulaire peu évidente. Moi-même, j'ai connu la défaite en 2014 dans une triangulaire difficile avec le Front National et le Parti communiste à Champigny, et je l'ai emporté en 2020. Je crois qu'il faut savoir tirer les enseignements à la fois de ses victoires, mais aussi de ses échecs. Je sais que Valérie Pécresse a les qualités pour rebondir, et en tout cas qu'elle continuera à œuvrer au profit des Franciliens pour faire avancer ses projets du Grand Paris, et comme bien d'autres projets, c'est quand même la première région d'Europe. C'est la région capitale et donc on se doit de continuer à avancer pour faire en sorte que notre région fasse briller le pays.
On est à quelques jours des législatives, là encore, beaucoup d'enjeux et des alliances qui se reconstituent même localement au fur et à mesure. Vous attendez à quoi ?
Alors les législatives, c'est 577 scrutins, c'est pas un seul scrutin. Donc il y a quand même des particularités locales qui jouent. Hein. Une législative à Saint-Denis n'est pas tout à fait la même qu'à Neuilly-sur-Seine. Et même chose à Champigny, où on est sur deux circonscriptions, où on a des configurations différentes au regard du coup de ciseau du ministre de l'Intérieur d'il y a quelques années. J'espère en tout cas qu'on aura au moins une majorité claire à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que le pays avance. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, compte tenu de la situation internationale, de la situation économique du pays dont plus personne ne parle, mais qui est quand même particulièrement préoccupante à la suite du Covid. Valérie Pécresse a été une des rares candidates à parler de la situation financière du pays, alors que tout le monde disait il n'y a qu'à faire des chèques. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Il va falloir quand même qu'on ait un plan d'attaque pour qu'une fois que l'économie sera pleinement repartie, comment on résorbe ce déficit structurel qui est maintenant hors norme, et comment on arrive à faire rebondir notre pays, parce que au-delà même des questions financières, restent quand même aussi des enjeux importants. Vous voyez comment, au fond, à la fois le Covid, mais la guerre en Ukraine, sont en train de changer beaucoup d'aspects sur les denrées alimentaires, sur tout un tas de produits qui sont en train de s'envoler, et nous sommes depuis déjà plusieurs années sur des difficultés sur notre commerce extérieur qui ne parvient pas du tout à s'équilibrer, et ce qui peut être un rebond pour un certain nombre de pays, et y compris des pays dont on parlait peu il y a quelques années. Regardez comment l'Italie a réussi à rebondir ces dernières années en matière de commerce international, et la France a perdu du terrain sur ces sujets, et moi ça me préoccupe particulièrement parce que je pense que c'est quand même un des leviers majeurs pour faire en sorte que notre pays avance et que, au fond, l'emploi que l'on peut souhaiter à Champigny, mais comme dans toutes les autres villes de France, eh bien, il est ce moteur-là.
Et bien voilà, quand le Paris Grand Express sera terminé, on donne un exemple de temps de parcours. 9 minutes pour aller à Créteil de la gare de Brivilliers-Champigny, au lieu de plus d'une heure aujourd'hui. Et là, c'était près de 30 minutes avec Laurent Jeanne. Merci de nous avoir reçus, maire de Champigny, qui est au cœur de ce réseau, puisqu'il va notamment accueillir le cerveau de la ligne 15. Et en termes de cerveau, vous y connaissez. Merci Laurent Jeanne, merci beaucoup. Merci.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.